Welcome to the Voice of America in Creole.
Et tout le monde qui a écouté, moi c'est Ronald César qui a invité nous suivre un programme sous la voix de l'Amérique, Washington. Nous souhaitons tout le monde bonne écoute.
Monsieur Fernando Vidal, ambassadeur du Brésil en Haïti, la voix de l'Amérique vous salue et vous remercie d'avoir bien voulu lui octroyer cette interview. Alors, comme vous le savez déjà, monsieur l'ambassadeur, le Conseil de sécurité a récemment décidé de remplacer la MINUSTA, la mission stabilisation des Nations Unies, par une mission réduite, la MINUJUST, pour appuyer le système judiciaire ici, la police nationale. Votre réaction, monsieur Vidal, en tant que représentant du pays qui assure le leadership de la MINUSTA?
On savait déjà, le Brésil se préparait déjà pour la phase finale de la MINUSTA et la phase finale de la MINUSTA commençait déjà à se passer au fur et à mesure que le nombre de soldats militaires ici en Haïti était déjà réduit il y a quelque temps. Ça veut dire qu'on commençait déjà à réduire. Quelques pays avaient déjà annoncé qu'ils s'en allaient, comme le Chili par exemple. Ça veut dire que ce n'était pas une surprise hein, quand on a vu la résolution 2350. Ce n'était pas surprise du tout pour le Brésil ni pour d'autres pays.
Monsieur Vidal, certains soldats de la MINUSTA font l'objet d'accusations d'abus sexuels, et de viols et d'autres violations de droits humains. Est-ce qu'il y aurait des soldats brésiliens impliqués dans ce genre de violations?
Le travail des soldats brésiliens a été impeccable. Je ne cesse jamais de répéter ça et je suis très fier de pouvoir répéter ça parce que c'est vrai que les Brésiliens n'ont jamais participé de ces dénonciations et je dis que celui qui fait la dénonciation doit la prouver. Et on n'a jamais reçu une preuve concrète qu'un soldat brésilien pourrait être l'auteur d'un abus sexuel ou des crimes pareils. Et on est très fiers, plus que satisfaits, on est très fiers. Vous savez que le soldat brésilien, quand ils arrivent, avant d'arriver ici, ils reçoivent un entraînement très strict au Brésil. Ils sont très professionnels et ils restent seulement 6 mois parce qu'ils restent complètement enclosurés dans les bases militaires. Ils ne peuvent pas sortir des bases militaires le soir. Ils ne peuvent pas sortir des bases militaires le fin de semaine. Ils sortent des bases militaires seulement pour des opérations militaires. Et alors, c'est très difficile de dire qu'un soldat brésilien puisse être parti d'un crime d'abus sexuel en Haïti parce qu'on n'a jamais eu des cas comme ça. Et il faudrait, évidemment, si quelqu'un me dit qu'un soldat brésilien a en effet participé d'une chose comme pareille, il faudrait donner des éléments plus concrets d'investigation.
Ambassadeur Vidal, il ne fait plus de doute sur l'intention du gouvernement haïtien de créer une force armée pour remplacer le contingent militaire de la MINUSTA après son départ. Quelle sera la contribution du Brésil à la création de cette force?
Ici, tu courtoisies au président du Sénat pour parler de la coopération entre le Brésil et Haïti. Il m'a dit que ce serait très important si le Brésil pourrait continuer la coopération dans le domaine militaire. Je lui ai rappelé qu'on a signé avec Haïti un mémorandum d'entente en ce qui concerne le génie militaire pour pouvoir contribuer à la formation d'un génie militaire en Haïti. On n'a pas pu malheureusement implémenter ce mémorandum d'entente parce qu'on a eu des contraintes budgétaires au Brésil. Et il m'a demandé de voir si on pouvait, dans ce processus de relèvement du composant militaire de la MINUSTA, si on pouvait laisser des équipements militaires ici en Haïti pour les forces armées, pour le génie militaire. Et moi, je lui ai dit que j'allais voir ça avec mon gouvernement. Et j'ai déjà transmis ça à mon gouvernement pour savoir si on peut laisser, s'il y a des équipements de génie militaire, et si on peut les laisser. Parce que moi, j'ai l'information que toutes les donations d'un bien public brésilien doivent être autorisées par le Congrès brésilien, par le Parlement brésilien. On devrait faire un inventaire de ce qu'il y a ici en Haïti, ce qu'on pourrait donner au gouvernement haïtien et voir s'il y aura le temps suffisant pour que le Parlement brésilien se prononce. Ça veut dire qu'on est au début d'un travail, on n'a pas d'informations concrètes, on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir laisser ici. Mais il y a la demande haïtienne et que j'ai déjà transmis au gouvernement brésilien. Et on va, je crois que pendant les prochains mois, travailler sur ça.
l'appui technique du Brésil pour la professionnalisation de la police nationale va-t-elle continuer, ambassadeur Vidal?
On a déjà eu avec la PNH des projets de coopération. On a toujours envie de continuer à collaborer avec la PNH. Ça dépend un peu de la PNH nous dire en ce qu'on peut aider maintenant. On a toujours, vous savez, au Brésil, une question qui est un peu difficile pour nous tous, qui est la question budgétaire. Il n'y a pas une question politique, là, c'est une question budgétaire seulement. Et on a déjà, quand on vivait des moments plus heureux en ce qui concerne le budget, on a reçu des agents de la PNH au Brésil pour des formations de policiers. Et j'espère pouvoir annoncer au futur prochain que la situation budgétaire a amélioré pour pouvoir reprendre les projets de coopération qu'on a avec Haïti dans ce domaine-là.
Et ambassadeur Vidal, on va changer de sujet pour aborder un autre volet de cette coopération en ce qui concerne les hôpitaux communautaires. Y a-t-il un suivi à ce sujet, ambassadeur Vidal?
Ça, c'est un projet de coopération qu'on a avec Haïti dans le domaine de la santé. C'est un projet du Fonds de reconstruction d'Haïti qui a été créé en 2010 après le tremblement de terre. Le Brésil a été le premier pays à faire le don dans ce fonds du Fonds de reconstruction d'Haïti. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'on va pouvoir maintenant, en 2017, commencer un très, très important projet dans le domaine de la santé avec le ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti. J'ai déjà parlé avec la ministre, la nouvelle ministre de la Santé. Et on va recevoir le mois prochain de mai une délégation du ministère de la Santé de Brésil qui vient pour parler de ce projet. Et c'est un projet très important qui va, comme vous avez dit, qui va mettre le point sur la question des urgences et du maintien des hôpitaux qu'on a créés ici avec un autre projet qui va finir cette année. Ça veut dire qu'on est très heureux de pouvoir continuer à aider Haïti dans le domaine de la santé. On a laissé déjà une marque importante. Trois hôpitaux qu'on a construits en 2014, des hôpitaux communautaires de référence de Carrefour, de Bon Repos et de Bedet. Et je suis très soulagé de pouvoir continuer cette coopération avec le nouveau projet de la santé. Ce sont des hôpitaux qui ont été construits par le Brésil dans un projet aussi tripartite avec Cuba. Cuba a envoyé les professionnels, nous on a construit les hôpitaux et les hôpitaux marchent très bien. Il y a des problèmes qui vont être résolus maintenant avec le nouveau projet qui va continuer le maintien de ces trois hôpitaux. Je fais allusion à un institut de réhabilitation qui est lié à l'hôpital de Bon Repos qui a des problèmes maintenant de fonctionnaires parce que maintenant on va pouvoir, avec le nouveau projet de la santé du Brésil bilatéral avec Haïti, on va pouvoir appuyer le paiement des fonctionnaires de l'institut de réhabilitation. Ça, c'était une question qui était un peu difficile à résoudre, mais maintenant, avec l'approbation du projet par le gouvernement d'Haïti, on va pouvoir continuer à maintenir l'hôpital du Bon Repos et à maintenir les fonctionnaires de l'Institut de réhabilitation, qui est très important, surtout après le tremblement de terre, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il y a un chiffre déjà pour ce projet?
Le projet, il a un chiffre de 20 millions de dollars.
Ambassadeur Fernando Vidal, La Voix de l'Amérique, vous remercie.
Je vous remercie beaucoup. Parfait.
Service Créole, La Voix de l'Amérique, l'a annoncé toutes les stations de télévision affiliées LIO, l'y pourraient présenter un programme spécial dans le moment président américain Donald Trump à Paris pour marquer 100 premiers juillet sous pouvoir dans la date 29 avril 2017. Là. Programme spécial ça pourra le passer sous satellite depuis samedi 22 avril, arrivé vendredi 28 avril, sous 319.5 degrés, Chanel Virtuel 322 et dans l'Essayo.
samedi 22 avril entre 18h30 et 19h GMT, soit entre 2h30 et 2h de l'après-midi en Haïti. Dimanche 23 avril entre 12h et 12h30 GMT, soit 8h et 8h30 du matin en Haïti, et puis sauter lundi 24 pour arriver vendredi 28 avril entre 11h GMT et 11h30 GMT, soit 7h du matin et 7h30 du matin en Haïti.
Sans premier jour, président Trump sous pouvoir, il y a une occasion pour la Voix de l'Amérique parler de programme administration Trump-là avec l'institution démocratique États-Unis.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique dans langue créole haïtienne.
Ambassadeur Ruben Cillier, vous êtes le représentant de la République dominicaine en Haïti. La Voix de l'Amérique vous salue. Et on va aborder l'état des relations haïtiano-dominicaines du point de vue politique et économique. D'abord, commençons par les questions migratoires, monsieur l'ambassadeur.
Bon, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, les relations sont très bonnes. Elles ont été très bonnes depuis quelque temps, surtout l'année dernière. Mais avec le président Jovenel Moïse, vous savez qu'il a choisi la République dominicaine pour faire son premier voyage à l'extérieur, avant d'être président d'Haïti. C'était avant d'être nommé définitivement président d'Haïti. Et dans cette visite, il a rencontré son collègue Danilo Medina et ils ont développé, c'est ce qu'on peut dire, une métaphore, une grande chimie mutuellement. Ils se sont bien compris. Parce que le président Medina, c'est un homme d'action, c'est un homme de projets concrets. Et le président Jovenel Moïse est venu pour connaître l'expérience de certains projets qui ont été déjà développés en République dominicaine. Et du point de vue politique, je pense que le rapport que son ça a été, ils sont entre tous les deux, j'ai eu le privilège de les accompagner. Je pense que ça a été un excellent rapport. Je pense qu'ils sont, comme je vous dis, une très bonne chimie. Et je pense que maintenant, les expectatives d'approfondir, c'est ce que j'appelle l'organisation, ordonner l'immigration de la République dominicaine, ça a beaucoup de futur.
Mais concrètement, dans les faits, comment peut-on quantifier, si je peux utiliser ce terme, comment peut-on vraiment jauger ces rapports?
Bon, si vous prenez par exemple tout ce qui est l'aspect des échanges commerciaux, même si on doit discuter encore, disons, un accord binational pour le commerce, et qu'il y a beaucoup de différences entre les deux pays de ce point de vue, mais la relation commerciale continue très très intensement. Pas seulement la relation, disons, au niveau formel, mais aussi au niveau informel, avec les marchés transfrontaliers. Donc on a des milliers de personnes, dominicains et haïtiens, qui vivent de l'échange commercial. Donc ça, c'est un point très, très important. Du point de vue migratoire, je pense que les deux pays ont arrivé à se rapprocher plus que jamais. Étant donné que, comme vous savez, si bien à un moment donné, le tribunal constitutionnel a prétendu créer un problème pour les Dominicains d'origine haïtienne, le président Medina a trouvé une sortie légale et légitime pour les Dominicains d'origine haïtienne. Donc ce qui menaçait pour être un problème grave entre les deux pays a été complètement résolu. Mais en plus, le président Medina a développé le plan national de régularisation de la migration des étrangers et ce plan, elle a pu se développer d'une façon, ils sont satisfactoires. Donc, ce sont les deux points qui sont plus difficiles de la relation et les deux points sont en train de s'organiser. Parce que, j'ai toujours répété, ce qui nous manque, c'est une bonne organisation entre les deux pays pour gérer, disons, les sujets de l'agenda binational.
Et vous avez fait allusion à la question migratoire, mais déjà le gouvernement haïtien et le président haïtien a récemment annoncé qu'il comptait délivrer des passeports et donner des documents d'identité à ceux-là qui se sont inscrits dans le programme d'identification. Et le délai, la date d'échéance, et c'est juillet. Donc, est-ce qu'il y a une distribution de documents déjà à date?
ils n'ont pas encore commencé à distribuer les passeports qui ont été élaborés avec le gouvernement de M. Jovenel Moïse. Parce que ça fait à peine 2 semaines qu'ils ont fini les passeports, mais ça a été une excellente nouvelle, étant donné qu'ils ont parlé de 12 à 15 000 passeports. Donc cela veut dire que 12 à 15 000 Haïtiens qui sont inscrits dans le plan national de régularisation des étrangers auront finalement sa résidence et son permis de travail permanent en République dominicaine, avec une cinquantaine qui ont déjà ces permissions. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très positif pour le président Jovenel Moïse, parce que le président Jovenel Moïse a compris qu'il fallait retourner la dignité à ces travailleurs haïtiens qui sont à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis parce qu'ils n'avaient pas travaillé en Haïti. Ils sont tombés ici, ils avaient l'opportunité de se régulariser. Et par la faute d'un document d'identité, ils ne pouvaient pas y arriver. Donc maintenant, il y a 15 000 personnes qui ont récupéré sa dignité avec une carte d'identité et un passeport haïtien. Et j'espère qu'à partir de quelques jours, parce qu'ils sont annoncés qu'il y a un plan pour la distribution de ces passeports et ces cartes d'identité dans tout le territoire national. Nous, on attend de connaître quel est le plan du gouvernement haïtien, mais dès maintenant, je peux vous dire que le gouvernement haïtien pourra compter avec tout le soutien du gouvernement dominicain pour arriver, disons, positivement à distribuer toutes ces cartes.
Et parallèlement à ce programme de normalisation des Haïtiens vivant en République dominicaine, des Haïtiens qui n'ont pas encore de documents légaux, et il y a le refoulement à la frontière. Plus d'un se plaint de la façon dont se déroule ce refoulement d'Haïtiens à la frontière.
Je pense que les revendications des organisations civiles sont permanentes. Et je peux vous assurer, je pense que les Haïtiens qui sont rendus dans son pays, et ça se fait de plus en plus d'une façon organisée, avec les témoignages des organismes internationaux comme la OIM et aussi des organismes haïtiens. Des fois, il y a des problèmes. Il faut que je vous le dise, je dois l'admettre. Mais vous savez, pour une frontière comme celle, comme notre frontière avec Haïti, ce n'est pas facile de changer d'un coup avec un arrêté présidentiel. Changer tout de suite, disons, ce qui a été une tradition, vous voyez. Et je peux vous assurer que nous avons beaucoup avancé dans ce sens.
Et parlons maintenant de commerce bilatéral. Sur le gouvernement de l'ancien président Martelly, il y a eu interdiction d'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains. Et cette mesure est toujours maintenue. Est-ce que c'est une mesure qui gêne un peu le rapport commercial entre les deux pays?
C'est une mesure qui gêne beaucoup, disons, l'activité commerciale d'exportation de la République dominicaine. Vous savez, la mesure a été prise. Et malheureusement, les exportations de la République dominicaine vers Haïti, elles sont diminuées. Et ça nous fait, ça nous touche fortement. Mais de toute façon, c'était développé une certaine informalité. Et il y a une partie des commerces qui continue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des commerçants, surtout de la partie nord, qui n'acceptent pas la mesure, étant donné que pour ces commerçants qui sont sur la frontière, ils n'ont pas accès facilement au port d'Haïti. Donc, de ce point de vue, ces commerçants haïtiens qui font de l'importation, ils ont insisté à l'élimination de la mesure et ils sont forcés, si vous voulez, l'entrée de certains produits dominicains en Haïti. Parce que c'est son moyen de vie. C'est différent pour un grand importateur qui se trouve à Port-au-Prince. Mais ces commerçants qui sont de le nord et à côté de la frontière, c'est des moyens et petits importateurs. Vous voyez, c'est un problème. La mesure ne résout pas le problème. La mesure a été adoptée pour éliminer contre la contrebande. Et vous savez, la contrebande, on ne peut pas arrêter la contrebande de façon unilatérale. Arrêter la contrebande, ça implique, ça signifie un accord sérieux au niveau technique, au niveau sécurité, au niveau économique, etc., pour garantir le blocage à la contrebande. Vous voyez ? C'est pourquoi je pense que la mesure n'a pas réussi, disons, les objectifs qu'elle s'était proposée.
Monsieur Sillier, pensez-vous que le gouvernement dominicain serait prêt à collaborer avec les autorités haïtiennes dans le cadre d'une lutte conjointe contre la contrebande à la frontière haïtiano-dominicaine?
Je pense que oui, et le gouvernement dominicain va faire beaucoup d'efforts avec le nouveau gouvernement, parce que, bon, au moins le nouveau gouvernement a montré bon, l'intérêt d'organiser le commerce. Et ils sont conscients maintenant qu'en réalité, la mesure de vente de produits ne constitue pas le mécanisme idéal pour organiser le commerce entre Haïti et la République dominicaine.
Qu'est-ce qu'on reproche à ces 23 produits, monsieur Sili?
Là, je pense qu'il n'y a pas de reproche. Parce qu'à un moment donné, il y avait des reproches pour la production agricole. Il y avait la fièvre, etc. C'était faux. Mais il y avait la croyance. C'est faux. C'est le seul produit qui a été contesté. Pareil avec la farine. Parce que la farine avait un ingrédient qui faisait du mal. Tous les deux se sont résolus. Donc, du point de vue santé, salubrité, il n'y a pas de problème. La mesure est expliquée au niveau officiel comme un mécanisme pour bloquer la contrebande. C'est tout ce qui a été expliqué. Vous savez, la mesure a été prise. Et malheureusement, les exportations de la République dominicaine vers Haïti, elles sont diminuées. Et ça nous touche non, fortement. Mais de toute façon, c'était développé une certaine informalité. Et il y a une partie des commerces qui continue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des commerçants, surtout de la partie nord, qui n'acceptaient pas la mesure, étant donné que pour ces commerçants qui sont sur la frontière, ils n'ont pas accès facilement au port d'Haïti. Donc, de ce point de vue, ces commerçants haïtiens qui font de l'importation, ils ont insisté à l'élimination de la mesure et ils sont forcés, si vous voulez, l'entrée de certains produits dominicains en Haïti. Parce que c'est son moyen de vie. La mesure ne résout pas le problème. La mesure a été adoptée pour éliminer contre la contrebande. Et vous savez, la contrebande, on ne peut pas arrêter la contrebande de façon unilatérale. Arrêter la contrebande, ça implique, ça signifie un accord sérieux au niveau technique, au niveau sécurité, au niveau économique, etc., pour garantir le blocage à la contrebande. Et c'est pourquoi je pense que la mesure n'a pas réussi, disons, les objectifs qu'elle s'était proposée. Quand il y a une affaire qui est l'intérêt mutuel, je pense qu'on doit quand même se mettre d'accord. Le gouvernement Lamotte, à un moment donné, elle a donné un chiffre. Elle disait que le gouvernement haïtien perd autour de 400 millions de dollars. Les études les plus récentes qui ont été faites par un groupe de Caribbean Sports et par un groupe d'académiciens intégrés par 5 universités haïtiennes et dominicaines, tous les deux, ce sont des études qui montrent que la République dominicaine aussi, elle perd plus de 300 millions de dollars.
Ambassadeur Sillier, vous êtes arrivé à la fin de votre mission en Haïti. Avec quel esprit vous laissez la terre haïtienne?
Bon, premièrement, je pars avec le sentiment d'avoir des devoirs accomplis. Je pense que j'ai tout fait pour que mon gouvernement et mon pays reconnaissent que j'ai fait de mon mieux pour que la relation entre les deux pays soit toujours bonne et meilleure. C'est-à-dire avec l'effort qu'a fait le gouvernement dominicain, je me sens que j'ai accompagné, n'est-ce pas, l'effort et l'enthousiasme du gouvernement dominicain, premièrement. Deuxièmement, cet rapprochement direct avec les Haïtiens, mes amis, les intellectuels, les académiciens, les artistes, etc., m'a permis une connaissance beaucoup plus approfondie d'Haïti. Donc maintenant, je sens que je connais mieux Haïti et je me sens beaucoup plus proche d'Haïti qu'avant.
Ambassadeur Ruben Sillier, La Voix de l'Amérique vous remercie.
Merci à vous et bon après-midi.
Nous sommes écoutés en programme Amérique Washington. Ronald César a dit nous merci pour attention. Nous.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.